en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Très bien, merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Je suis très honoré d'avoir cette invitation et de parler devant vous. Je vous prie de m'excuser à l'avance, j'ai un peu une extinction de voix. Et j'espère que ça va ne pas vous poser de problème. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui évidemment tient à cœur tous les économistes, la moralité et le marché, est basé sur le fait que les croyances des citoyens en les mérites de la libre entreprise et de l'économie de marché varie beaucoup dans le monde. 61% des habitants de notre planète pensaient en 2005 que l'économie de marché est le meilleur système sur lequel fonder leur avenir. Mais si 65% des Allemands, 71% des Américains et 74% des Chinois formulaient cette opinion, seulement 43% des Russes, 42% des Argentins et 36% des Français faisaient confiance au marché. Des croyances qui, à leur tour, bien sûr, affectent les choix politiques, les choix économiques des pays concernés. Le marché a de bonnes propriétés allocatives et protège le citoyen du discrétionnaire, des lobbies et du favoritisme si présents dans les mécanismes plus centralisés d'allocation des ressources. Pour ces raisons, il joue un rôle central dans la vie économique. Mais bénéficier des vertus du marché requiert souvent de s'écarter du laisser-faire. De fait, les économistes ont consacré une grande partie de leurs recherches à l'identification des défaillances de marché et à leur correction par la politique publique. Droit de la concurrence, régulation par les autorités sectorielles et prudentielles, taxation des externalités environnementales et des congestions, politique monétaire et stabilisation financière, mécanismes de fourniture des biens tutélaires comme l'éducation et la santé, redistribution, etc. Sujet à ces bémols, la très grande majorité des économistes sont favorables au marché. Les spécialistes des autres sciences sociales, philosophes, psychologues, sociologues, juristes et politistes, une grande partie de la société civile et la plupart des religions ont une vision différente du marché. Tout en reconnaissant ses vertus, ils reprochent souvent aux économistes de ne pas suffisamment tenir compte des problèmes d'éthique et de la nécessité d'établir une frontière claire entre les domaines marchands et non marchands. Un symptôme de cette perception est le succès planétaire du livre « Ce que l'argent ne saurait acheter, les limites morales du marché » de Michael Sandel, professeur de philosophie à Harvard. Pour ne citer que certains de ces exemples, Michael Sandel fait valoir que toute une gamme de biens et services, comme l'adoption d'enfants, la GPA, la sexualité, la drogue, le service militaire, le droit de vote, la pollution ou la transplantation d'organes ne doivent pas être banalisés par le marché, pas plus que l'amitié, l'admission aux grandes universités et le prix Nobel ne doivent être achetés, ou les gènes, ou plus généralement le vivant, ne doivent être brevetés. Il y a beaucoup de philosophes, en particulier anglo-saxons, qui ont travaillé récemment sur les limites du marché, les limites éthiques du marché. Mon exposé analysera les réticences vis-à-vis du marché et la distinction entre domaine marchand et domaine du sacré, la place de l'émotion et de l'indignation dans nos choix de société et le marché comme menace pour le lien social. Enfin, il conclura peut-être, parce que je n'aurai sans doute pas le temps, par quelques réflexions sur le lien entre marché et inégalité. Je voudrais commencer par les limites morales du marché et pour nous concentrer sur les vraies questions, écartons certains de ces exemples de Michael Sandel qui reflètent simplement un manque de connaissance des travaux des économistes. Des travaux anciens, par exemple, comme ceux sur l'économie de l'information et des externalités, ou des travaux pluridisciplinaires entrepris depuis 10 ou 20 ans, en Europe comme aux États-Unis. Ces derniers travaux, théoriques et expérimentaux, sur le terrain, en laboratoire, en neuroéconomie, couvrent des sujets aussi divers que la morale et l'éthique, les normes sociales, l'identité, la confiance ou les phénomènes d'éviction créés par les incitations. Commençons par la théorie de l'information. Par exemple, l'idée qu'on puisse acheter une vraie amitié, une admission à une université ou un prix Nobel, contrevient aux théories élémentaires sur les asymétries d'information. Ces biens perdraient toute valeur s'ils pouvaient être achetés. Car on ne pourrait plus savoir si l'amitié est réelle, l'admission à l'université est signe de talent ou le prix Nobel est mérité. Par exemple, le diplôme de l'université sera un signal de richesse et non d'aptitude et ne servira à rien à convaincre un employeur. Deuxième volet, externalité et internalité. Un marché pour l'adoption d'enfants où les vendeurs, les parents biologiques, les agences d'adoption et les acheteurs, les parents adoptifs, s'échangeraient contre espèces sonnantes et trébuchantes des enfants, n'inclurait évidemment pas une tierce partie, pourtant très concernée, les enfants eux-mêmes, qui subiraient des externalités importantes dans cet échange. Un autre exemple d'externalité créée par un marché est fourni par les diamants qui servent à alimenter une guerre civile. Autoriser le commerce des diamants par des fractions armées exerce un fort pouvoir de nuisance sur des populations civiles affectées par la guerre. Quant à la pollution, l'expérience montre que les recommandations des économistes, qui est quasi unanimement un prix unique du polluant, a nettement diminué le coût des politiques écologiques et par là a contribué à améliorer notre environnement. Certains trouvent encore immoral l'idée que qu'une entreprise puisse acquérir le droit de polluer en payant. Mais l'argument sous-jacent est très faible. Aujourd'hui, les entreprises émettrices de carbone, par exemple, ne paient qu'une somme dérisoire par rapport aux enjeux. Est-ce vraiment plus moral? In fine, il faut réduire la pollution, et comme on ne peut malheureusement pas l'éliminer totalement, il faut bien s'assurer que ceux qui peuvent le faire à bas coût le fassent effectivement. Et c'est exactement ce qu'assure un prix du carbone. La question de la drogue pose, au-delà des problèmes de violence ou de santé publique liés aux drogues dures, la question de l'insuffisance d'autodiscipline et de l'addiction dont les individus concernés sont les principales victimes. La question de la drogue n'est donc pas une question de moralité, mais de protection des citoyens contre les autres, c'est le cas de l'externalité, et surtout contre eux-mêmes, une internalité. Un pays où les droits de vote s'échangeraient à un prix de marché ne mènerait pas à des politiques auxquelles nous souscririons derrière le voile de l'ignorance, c'est-à-dire sans savoir quelle serait notre place dans la société. Les ménages les plus aisés pourraient acheter les droits de vote et faire passer des lois qui leur seraient favorables. Cet argument est d'ailleurs utilisé pour limiter les contributions individuelles aux campagnes électorales ou alors pour en financer une partie avec de l'argent public. Un achat direct de vote serait plus nuisible, nettement plus nuisible qu'une contribution à une campagne électorale qui n'achète des votes que de façon très indirecte en facilitant la visibilité du candidat. Nous sommes donc dans le domaine des défaillances de marché que les économistes ont toujours mis au premier plan. Je voudrais dire un petit mot sur les effets contre-productifs des incitations. L'économie en général, et c'est vrai, insiste sur la nécessité de faire en sorte que les objectifs individuels soient alignés sur les objectifs collectifs. Il s'agit de mettre les individus en phase avec la société, en particulier par des incitations qui découragent les comportements, comme la pollution, qui sont nuisibles à la société, et à l'inverse, encouragent des comportements vertueux. Les autres sciences sociales sont en désaccord partiel avec ce principe. Selon elles, les motivations extrinsèques, les incitations, peuvent évincer la motivation intrinsèque, de sorte que les incitations peuvent être contre-productives. Je cite ici Michael Sandel. Si vous donnez à un enfant, $1 pour lire un livre, ce que certaines écoles ont essayé de faire, non seulement vous créez une attente que la lecture fait gagner de l'argent, vous courez aussi le risque de priver l'enfant à jamais de ses bénéfices. Les marchés ne sont pas innocents. Sandel reprend ainsi une critique ancienne des psychologues vis-à-vis du postulat économique, selon lequel une augmentation du prix accroît l'offre. Même si ce postulat a été vérifié empiriquement dans de très nombreux domaines de la vie économique, il y a aussi des exceptions. Payer un enfant pour lire un livre ou réussir un examen peut avoir un effet bénéfique à court terme, mais par la suite diminuer son envie d'apprendre une fois la récompense supprimée. Dans un autre domaine, payer les gens pour donner leur sang n'augmentera pas forcément le niveau de la collecte. Tandis que certains réagiront positivement à la citation ainsi fournie, d'autres y perdront leur motivation, car il n'est plus clair s'ils donnent leur sang par souci du bien public ou par appât du gain. Notre volonté de paraître, c'est-à-dire de donner une bonne image de nous-mêmes, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis des autres, peut donner naissance à des effets contre-productifs des incitations, ceci d'autant plus que le comportement est public, surtout devant des personnes dont on recherche l'estime, et qu'il est mémorable. En cas de paiement pour un acte par ailleurs pro-social, par exemple le don du sang, nous avons peur que notre contribution ne soit interprétée comme un signe de cupidité plutôt que de générosité, et que le signal que nous envoyons aux autres soit ainsi dilué. Contrairement à un principe de base de l'économie, une récompense monétaire peut réduire l'offre du comportement social concerné. Plusieurs études empiriques réalisées ont depuis confirmé cette théorie. Donc, les effets contre-productifs, qui s'appliquent à certains domaines de la vie très spécifiques, ont été étudiés depuis 10 ou 15 ans par les économistes. J'en viens à mon deuxième sujet, le domaine du marchand, du non-marchand et du sacré. Même en mettant de côté ces exemples qui relèvent de l'économie classique, nous avons tous des réticences d'ordre éthique ou moral à l'existence de certains marchés ou certaines formes d'incitation. Nous pouvons citer le don d'organes, les mères porteuses, la prostitution ou les paiements pour échapper à la conscription. Pourquoi en est-il ainsi ? Une analyse de pourquoi de tels tabous, qu'ils soient justifiés ou non, me semble plus fructueuse que la conception de politique publique, pour la conception de politique publique, pardon, qu'une simple indignation. Je voudrais illustrer ce propos à l'aide d'un débat suscitant beaucoup de passion de part et d'autre, le don d'organes. Gary Baker, professeur à l'Université de Chicago et célèbre partisan de l'étude des comportements sociaux, famille, drogue, etc., à travers le prisme de l'économie, remarquait que l'interdiction de vendre son rein, par exemple, limitait les donations, essentiellement réservées aujourd'hui à la famille et aux très proches, condamnant chaque année des milliers de personnes, rien qu'aux États-Unis, à mourir faute de donneurs. Gary Baker en concluait que les détracteurs des marchés d'organes ne devaient donc pas se targuer de moralité, puisqu'ils faisaient mourir des milliers de personnes tous les ans. Malgré le bien fondé de cet argument, nous éprouvons tous une gêne vis-à-vis des marchés de dons d'organes. Mais au vu des enjeux considérables, il conviendrait de comprendre pourquoi. Est-ce parce que nous craignons que les donneurs ne soient pas suffisamment informés des conséquences de leur acte ? Dans ce cas, il existe un remède simple. Il suffit de demander aux donneurs d'écouter une information impartiale et d'y réfléchir. Ou bien est-ce parce que la vente d'organes, en dévoilant que des individus sont prêts à vendre leurs reins pour quelques centaines d'euros, nous révélerait des inégalités que nous voudrions bien oublier ? Ou encore parce que l'on veut protéger les gens contre leurs préférences trop fortes pour le présent, la préférence pour une somme disponible immédiatement contre des conséquences néfastes à long terme. Je vous rappelle que la puissance publique intervient souvent avec un côté paternalisme contre la préférence pour le présent des individus. On les force à épargner plus pour leur retraite, on taxe l'alcool ou la drogue, on les force à aller à l'école, etc. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons une politique paternaliste, justement, contre la préférence trop forte pour les présents des individus. Je n'ai pas de réponse à la question du don d'organes, mais je dis simplement, Gary Baker indiquait quelque chose là. Il disait, attention, on ne peut pas se targuer de moralité quand on est contre les dons d'organes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se targuer, on est très moral quand on recommande les ventes d'organes. Mais il faut bien réfléchir à ces questions, et ça va être un leitmotiv de mon exposé. Je vous rappelle que Kant appelait une séparation claire entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Je cite Kant ici. Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut aussi bien être remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix Ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Bon, certains d'entre vous, certains d'enfants d'entre vous ont eu ça comme sujet du bac d'ailleurs. Notre attitude vis-à-vis du marché relève peut-être aussi de notre refus de comparer l'argent à d'autres objectifs. Par exemple, l'introduction de considérations financières heurte particulièrement nos vues sur le caractère sacré de la vie humaine. Nous savons tous que la vie n'a pas de prix. Les tabous sur la vie et la mort, faisant partie de l'incommensurable chair à Émile Durkheim, ont des conséquences. L'explicitation des arbitrages liés à la santé, l'allocation des budgets hospitaliers ou de choix de sécurité soulève des controverses importantes. Son absence implique un accroissement des décès dû à notre refus de comparer les effets thérapeutiques et le nombre de vies sauvées dans les choix hospitaliers ou l'allocation des budgets de recherche médicale. N'est-il pas absurde de dépenser dans un service chirurgical ou une opération de sauvetage des millions d'euros pour sauver une vie, quand avec la même somme, on pourrait en sauver des dizaines dans d'autres services? Mais le cynisme apparent d'une telle considération choque la société qui le rejette. Les philosophes ont depuis longtemps réfléchi à notre réticence vis-à-vis des considérations utilitaristes de ce type. Le plus célèbre des dilemmes posés par les philosophes est celui du tramway, dans lequel on nous demande si nous serions prêts à pousser un homme sous un tramway pour le faire dérailler, sauvant ainsi de la mort 5 personnes qui autrement se trouveraient sur son passage. La plupart des personnes interrogées ne sont pas prêtes à pousser quelqu'un sous un tramway pour sauver 5 personnes. On demande à un chirurgien s'il serait prêt à tuer un homme bien portant pour sauver 5 personnes sur le point de mourir s'ils ne reçoivent pas un don d'organes immédiat. Au corps, on présente un choix aux gens de sauver de la noyade son enfant ou sauver 5 enfants, les deux n'étant pas physiquement compatibles. Pour prendre un cas moins extrême, deux chercheuses américaines de Yale ont montré que le marché américain du funéraire, qui a priori devait être extrêmement compétitif, concurrentiel, exhibe des marges quasi monopolistiques en raison de notre répugnance à parler de l'argent lors d'un décès d'un proche. Il convient néanmoins de s'interroger sur l'origine de ces tabous, de se demander s'ils sont socialement justifiés et d'évaluer leur incidence pour les politiques publiques. De facto, nous mettons tous implicitement une valeur sur la vie, celle des patients lors d'arbitrages hospitaliers dans les choix d'équipement, ou celle de nos enfants dans nos choix d'automobile ou de vacances. Si on choisit une automobile plus robuste, c'est vrai qu'on met une vie, implicitement une vie plus élevée sur la vie de nos enfants, un prix plus élevé sur la vie de nos enfants. Mais jamais nous ne voudrons admettre que nous faisons ces choix. Nous sommes aussi mal à l'aise vis-à-vis de ces choix que Sophie a à choisir lequel de ses deux enfants doit survivre sous la menace que les deux soient gazés si elle refusait de faire un choix. Il était aussi utile de rappeler que les tabous sont changeants dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est très, très important. Il suffit de considérer les attitudes de la société vis-à-vis de l'assurance décès et du paiement d'intérêts sur les créances, deux pratiques autrefois largement condamnées comme étant immorales. Ces répugnances, ces tabous, sont-ils provoqués par la perte de dignité qui s'ensuivrait même si l'on ne faisait que contempler de tels choix, ou par la peur que la société ne s'engage sur une pente glissante? Excusez-moi. Troisième partie de mon exposé, j'aurais parlé de l'indignation qui, en tant qu'économiste, je dois reconnaître, me semble un pauvre guide de la moralité. Nous avons l'habitude de nous indigner devant, par exemple, l'injustice ou des comportements faisant peu de cas de l'humain. Le sentiment d'indignation peut signaler des errements dans le comportement individuel ou l'organisation de notre société. Au même titre qu'un impératif moral suggère, peut-être de façon trop rigide, des comportements à adopter ou à proscrire. Pour autant, l'indignation est souvent aussi mauvaise conseillère. Elle peut conduire à l'affirmation de préférences individuelles au détriment de la liberté des autres. Et elle fait parfois l'économie d'une réflexion en profondeur. Pour avancer, il nous faudra identifier plus soigneusement les ressorts de la moralité des comportements. On pourra ainsi mieux comprendre comment différentes institutions, du marché au système plus administré, affectent nos valeurs et nos comportements. Une étude d'Armin Falk et de Nora Tschech, donc deux chercheurs en Allemagne, publiée dans Science récemment, montre que, par exemple, le partage des responsabilités érode les valeurs morales. Et ça, on le sait tous. Cette érosion s'applique au marché, mais elle existe déjà avec la même puissance dès qu'une décision implique une autre personne, autorisant un semblant de partage de responsabilités. Et tous les régimes totalitaires, qui ne sont pas des régimes de marché, ont bien compris ça. L'existence d'excuses, on m'a demandé de le faire. Quelqu'un le ferait de toute façon si je ne le faisais pas. Je ne savais pas. Tout le monde le fait. Dans toutes les organisations, permis la mise au rancard des réticences individuelles à des comportements peu éthiques. Rappelons-nous la formule célèbre de Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Même si, comme Lionel Jospin, on peut s'inquiéter de l'extension de l'économie de marché dans le secteur dit non marchand, la définition des politiques économiques ne peut se satisfaire d'une dichotomie arbitraire entre domaine du non marchand et domaine marchand, ou pour reprendre Kant, entre ce qui relève du marché et de considérations supérieures. On ne peut pas se satisfaire dans des cantonnements, dans des postures morales. Comme le note le psychologue Jonathan Haidt, professeur à New York University, la morale commune réfère non seulement à des externalités, ce dont les économistes ont l'habitude, mais aussi à des condamnations de comportements sans victime claire. Or, il y a moins d'un demi-siècle, l'opinion majoritaire condamnait les actes sexuels entre deux personnes du même sexe, ou aux États-Unis entre deux personnes de races différentes, ou encore impliquant une femme, mais pas un homme, non marié. Sur un terrain plus économique, les droits et les missions négociables inspiraient, il y a 20 ans, un découp généralisé, avant qu'il se banalise, une fois qu'il fut compris par une frange de la population qu'il promouvait la cause écologique. Nos sentiments de répulsion sont très peu fiables comme source d'inspiration éthique. Mon point de vue est qu'il est nécessaire de questionner ces sentiments et de privilégier la réflexion dans la conception des politiques publiques. Il nous faut mieux comprendre les fondements des craintes vis-à-vis de la marchandisation de certains domaines, ainsi que ceux de la moralité. Ce que la comité des chercheurs va continuer d'explorer dans les années à venir. Sujet suivant. Le marché est-il une menace pour le lien social? Une autre catégorie d'objection à l'économie de marché provient d'un malaise diffus face à la perte de lien social. Bien sûr, il y a d'autres causes de ce malaise, comme par exemple l'urbanisation et le remplacement de la communication directe par l'utilisation de l'Internet. Même si, ce dernier, par les réseaux sociaux, Skype, l'email, permet de garder un contact beaucoup plus fréquent avec la famille et les amis éloignés. Mais le lien social peut être distendu par des phénomènes liés au marché, la globalisation, la mobilité. Nous échangeons avec la Chine et non plus avec la ville d'à côté. Nous allons nous installer loin de nos parents et loin de nos racines. L'adhésion populaire à des injonctions du type « achetons français, achetons américain » reflète ce malaise plus, on l'espère, qu'un jugement de valeur quant au mérite relatif des salariés français et américains par rapport aux travailleurs chinois ou indiens. Le marché anonymise les relations, mais c'est en partie sa fonction. Il est supposé libérer les acteurs du pouvoir de marché d'autres acteurs, empêcher les entreprises puissantes d'imposer leurs prix élevés et leur qualité médiocre à des consommateurs captifs. Il peut effectivement, comme le notent ceux qui regrettent la diminution associée du lien social, faciliter l'échange éphémère, anonyme, l'antithèse de l'économie du don et du contre-don. Même si dans les économies modernes, les notions de réputation et de relations répétées jouent encore un rôle crucial dans les dimensions de l'échange qui sont difficiles à spécifier dans un contrat et à mettre en œuvre à travers le système juridique. Il n'est pas étonnant que les géants de l'Internet, d'Uber à eBay ou Booking, aient créé un système de notation et de partage des expériences entre utilisateurs. Mais cette diminution des liens a aussi des vertus. Tout d'abord, comme l'indiquait Pierre Bourdieu, l'économie du don et du contre-don crée une relation de dépendance, une relation de supériorité entre donateur et donataire, dans lequel la violence est masquée sous une apparence de générosité sans calcul. C'est une remarque qui a déjà été faite dans un exposé précédent par Jean-Pierre Hansen. Plus généralement, les liens sociaux, s'ils ont beaucoup de vertus, peuvent aussi être étouffants et contraignants. Comme l'indique par exemple l'exemple du villageois qui mangeait du mauvais pain toute sa vie car il n'osait pas froisser le boulanger du village. Ensuite, le marché permet d'étendre son cercle d'interaction. Montesquieu parlait du doux commerce. Selon lui, le marché nous apprendrait à interagir et à connaître des étrangers. L'économiste américain Sam Bowles, ancien collaborateur de Martin Luther King, post-marxiste et un des pionniers de l'élargissement de l'économie aux autres disciplines des sciences humaines et sociales, adopte une position similaire dans ses ouvrages et dans une tribune au titre évocateur « The Civilizing Effect of Market Economies », l'effet civilisateur des économies de marché. Ceux qui expriment de l'inquiétude vis-à-vis de l'impact du marché sur le lien social font souvent l'amalgame entre trois soucis différents. Premier souci, le marché renforcerait l'égoïsme des participants, les rendant moins capables de liens affectifs envers les autres. Après tout, Adam Smith n'a-t-il pas énoncé dans une formule célèbre « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci de leur intérêt propre. » L'égoïsme semble donc au cœur de l'économie de marché, même comme s'il indique en résonance avec Adam Smith, un des plus brillants économistes contemporains, Darren Acemoglu, l'important n'est pas forcément de ce qui motive le résultat, mais le résultat lui-même. Je cite Darren Acemoglu ici. « L'un des apports profonds et importants de la science économique est de révéler qu'en soi, la cupidité n'est ni bonne ni mauvaise. Lorsqu'elle est canalisée au service d'un comportement novateur, concurrentiel, et axée sur la maximisation des profits, dans le cadre des lois et des réglementations bien conçues, la cupidité peut servir de moteur à l'innovation et à la croissance économique. Mais lorsqu'elle n'est pas soumise au contrôle des institutions et des réglementations appropriées, elle dégénère en recherche de rente, corruption et criminalité. Second souci, le marché permettra aux citoyens de s'éloigner des institutions traditionnelles, comme leur village et leur famille étendue, les distanciant ainsi de leur lien à la société qui les entoure. Troisième souci, le marché, comme nous l'avons déjà discuté, permettrait aux citoyens d'envisager certaines transactions qui autrement seraient impensables, de vendre leurs organes ou leurs services sexuels par exemple, mettant ainsi des aspects de leur intimité à une distance affective, comme s'il s'agissait de banales négociations commerciales. Dans son livre « La société des inconnus, histoire naturelle de la collectivité humaine », mon collègue Paul Seabright, directeur de l'Institut d'études avancées à Toulouse, IAST, analyse ses trois inquiétudes quant à l'influence de l'économie de marché. Il observe que loin de s'appuyer sur l'égoïsme de ses participants, le marché leur demande aussi une grande capacité de construire la confiance. Et rien n'est plus corrosif pour la confiance que l'égoïsme pur. Il montre comment, depuis la préhistoire, c'est l'aspect social de notre nature humaine qui nous a permis d'élargir le cercle de nos échanges économiques et sociaux. Certes, cela ne nous transforme pas en créatures très altruistes, mais le marché est un lieu de concurrence, de compétition et de collaboration, et l'équilibre entre les deux est toujours délicat. Il est vrai aussi qu'en nous permettant de choisir nos partenaires d'échange, le marché nous facilite la rupture avec certains liens traditionnels. Mais il s'agit d'une transformation de liens hérités en liens choisis, plutôt que d'une destruction du lien social tout court. Avec sans doute, au total, des relations peut-être moins durables, Mais ni la durabilité, ni l'héritage des liens sociaux ne sont des vertus en eux-mêmes. Qui déplorerait in fine l'inspiration des liens sociaux les plus forts qui n'aient jamais existé? Celui entre l'esclave et son maître, celui d'une femme avec son mari tout puissant, celui d'un ouvrier soumis aux conditions d'un employeur monopolistique, monopsonistique, ou pour prendre un exemple plus léger, celui de notre villageois coincé toute sa vie avec un boulanger peu doué ou fainéant. Quant à la commercialisation de certaines transactions considérées jusqu'ici comme touchant au domaine du sacré, Paul Seabright souligne combien les intuitions définissant le domaine du sacré ont changé au cours des époques et à travers les cultures. Selon lui, le refus de la commercialisation explicite peut coexister avec une commercialisation implicite. Une personne qui serait scandalisée par l'idée même de la prostitution ou de rémunération d'une compagnie peut néanmoins rester avec un époux ou une épouse qu'il ou elle n'aime plus par désir de sécurité financière ou par peur de solitude. Il n'existe pas de conclusion facile dans ce domaine, et parfois le marché n'est qu'un bouc émissaire pour notre propre hypocrisie. Sans renforcer ni affaiblir en lui-même nos liens sociaux, le marché est un miroir de notre âme, rendant ainsi explicite des aspects de nos tentations et de nos préférences que nous aurions préféré cacher non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Nous pouvons casser le miroir en supprimant le marché, nous pouvons suspendre le questionnement de nos valeurs personnelles et collectives, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Enfin, je voudrais dire quelques mots sur les inégalités. Je ne suis pas un spécialiste des inégalités. Il y a de bien meilleurs spécialistes que moi dans cette salle. Mais je voudrais dire quelques mots quand même, parce qu'une discussion du lien entre marché et moralité ne serait pas complète sans au moins une brève discussion des inégalités. L'économie de marché n'a aucune raison, a priori, de générer une structure des revenus et des richesses conformes à ce que voudrait la société. C'est pour cela qu'une fiscalité distributive, redistributive, a été mise en place dans tous les pays. On pourrait penser que dans la mesure où le marché est souvent perçu comme la cause de l'accroissement des inégalités, constatée ces 30 dernières années, la méfiance vis-à-vis du marché dans certains pays serait une réaction à l'accroissement des inégalités. Cela ne semble pas être le cas. Les 1% des Français les mieux rémunérés touchaient en 2007 deux fois moins en proportion du total des revenus dans le pays que leurs homologues américains. De même, l'inégalité globale après impôt est nettement plus faible en France. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour lesquelles l'attitude vis-à-vis des marchés devrait dépendre du niveau des inégalités. Comme le montrent les pays scandinaves, un pays peut très bien adhérer pleinement à l'économie de marché et utiliser l'impôt pour atténuer les inégalités. Beaucoup de recherches en sciences économiques modernes ont porté sur la mesure et la compréhension des inégalités, et ce sujet à lui seul mériterait un exposé entier. Je voudrais ici faire simplement quelques remarques sur ce que la science économique peut et ne peut pas faire pour contribuer au débat. Les économistes, je pense, ont fait beaucoup pour mesurer les inégalités. Ils ont fait beaucoup pour comprendre les sources de ces inégalités et comment ces inégalités vont changer dans le temps ou ont déjà changé. Et aussi, très important, c'est le rôle d'un économiste de comprendre, à objectif de redistribution donnée, quelles sont les politiques efficaces. Alors, je pourrais parler pendant quelques heures là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on redistribue de façon complètement inefficace. Et il y a beaucoup de politiques en France, je vous renvoie à ma tribune dans Libération avec Étienne Vasseur d'ailleurs, il y a beaucoup de politiques en France qui sont très inefficaces, qui sont censées redistribuer vers certaines catégories et qui ne redistribuent pas du tout vers ces catégories. Donc, il y a des marqueurs de la redistribution qui sont en fait extrêmement trompeurs sur l'existence de la redistribution et surtout qui peuvent gaspiller aussi les fonds publics. Alors, je ne vais pas avoir de temps pour parler de ça. J'aurais laissé la parole aux discussants, qui est Michel Pedro, et puis aussi laisser la parole à la salle. Je voudrais quand même dire deux, trois mots sur les limites de l'économie, sur ce sur quoi il est difficile pour un économiste de se prononcer. Dans un système fiscal cohérent, dans un bon système fiscal, encore une fois, on n'est pas dans un bon système fiscal, il y a nécessairement un compromis entre un peu plus de redistribution et un peu moins de pouvoir d'achat et de croissance. Sinon, c'est un système fiscal qui n'est pas efficace. Excusez-moi. Le choix exact face à ce compromis est complexe. D'une part, parce qu'il dépend des préférences de l'intéressé en faveur de la redistribution, un jugement de valeur personnelle. Ensuite, parce que nous n'avons pas toute l'information sur ce compromis. Ce qui m'amène à revenir brièvement sur le lien entre cause de l'inégalité et des désirabilités de la redistribution. Intuitivement, il faut savoir si le revenu des gens provient du hasard ou de l'existence de relations bien placées, ou au contraire est le fruit d'un effort ou d'un investissement. Dans le premier cas, quand le revenu provient du hasard ou de relations personnelles, le bénéficiaire n'a aucun mérite et la redistribution devrait être totale. Le taux de taxation devrait être 100%. Et ce point de vue est très globalement partagé. Même les républicains américains les plus conservateurs considèrent que du fait de l'absence de responsabilité des personnes dans leurs conditions, la société doit faire preuve de solidarité vis-à-vis des handicapés. Il n'y a pas d'aléa moral, bien sûr. Il est normal, évidemment, de redistribuer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le cas où la condition est endogène, là, c'est très différent. Et là, il y a un argument pour garder un taux d'incitation incitatif assez convaincant. Le problème est que nous n'avons qu'une vague idée de ce qui génère la réussite financière. L'effort ou le concours de circonstances. Devant cette pénurie d'informations, il n'est pas étonnant que chacun croie ce qu'il veut croire. À ce sujet, les sociologues et les psychologues ont mis en lumière un phénomène étonnant. Les Américains croient à 29% que les pauvres sont coincés dans une trappe à pauvreté et à 30% que la réussite est due à la chance et non à l'effort et à l'éducation. Donc il y a une très très petite minorité. Et d'ailleurs, si vous allez aux États-Unis et que vous demandez à un pauvre s'il mérite d'être pauvre, très souvent il vous répondra oui, ce qui est tout à fait étonnant. En Europe, les chiffres correspondants sont de 60% et de 54%. De même, 60% des Américains, y compris une fraction élevée des pauvres, comme je le disais, et seulement 26% des Européens répondent affirmativement à la question « Les pauvres sont-ils pauvres ?» parce qu'ils sont paresseux ou manquent de volonté. Des visions du monde complètement antinomiques. Les Américains croient dans un monde juste, « Believes in just world », dans lequel les gens ont ce qu'ils méritent. Que ce soit vrai empiriquement ou non, c'est ce qu'ils croient. Dans un article, Roland Benabou de Princeton et moi-même avons argué que ces croyances, qui évidemment affectent les choix de fiscalité et de protection sociale, logiquement plus progressistes en Europe étant donné la différence des croyances, sont en partie endogènes. Dans un pays à faible protection sociale, il vaut mieux penser que la réussite dépend fortement de l'effort pour se motiver et que seule la détermination pourra assurer un avenir décent à l'individu. Et nous avons examiné les conséquences, les coûts et bénéfices des deux systèmes de croyances. Nous avons dit que les croyances sont endogènes. Une difficulté supplémentaire pour l'économiste a trait à la définition du périmètre dans lequel se juge l'inégalité. Pour comprendre ce problème, il suffit de réfléchir à la libéralisation des échanges, qui a pu accroître certaines formes d'inégalité dans les économies riches, mais en même temps a permis à des populations importantes dans le Sud de sortir de la pauvreté. L'inégalité, est-ce que c'est l'inégalité dans nos pays qui compte le plus ou est-ce que c'est l'inégalité au niveau mondial? On peut aussi penser à nos attitudes vis-à-vis des migrants, même si nos concitoyens ne savent pas toujours que l'immigration présente souvent bien des avantages économiques pour le pays hôte. Il s'agit là d'un jugement éthique pour lequel l'économiste aura une vue personnelle, mais pas de savoir spécifique à apporter. Mais ce jugement éthique conditionne fortement nos politiques de redistribution, ou plus généralement, nos politiques économiques. Les travaux d'Alberto Alesina, de Reza Bakir et de William Easterly aux États-Unis ont montré que la redistribution par la fourniture de biens publics au niveau local est bien plus poussée quand les populations sont homogènes, que ce soit ethniquement ou religieusement. Même si la préférence communautaire, la préférence nationale et les autres formes de préférence pour la redistribution étroitement conçues nous choquent, elles sont un fait auquel il nous faut réfléchir. Enfin, l'inégalité, si elle est d'habitude mesurée sous un angle financier, le revenu ou la richesse, a beaucoup d'autres dimensions que l'argent. L'accès à la santé, le respect, l'intégration dans la société. Particulièrement prégnante, la demande de dignité. Il est de la nature de la très grande majorité des êtres humains de vouloir se sentir utile à la société et non une charge pour elle. Dans leur demande légitime de solidarité de la société envers leurs conditions, les handicapés demandent plus que de l'argent, ils veulent aussi du travail. De même, des questions éthiques se posent dans le choix des politiques redistributives par les institutions du travail, comme pour le choix entre un SMIC plus élevé et un revenu minimal pour les actifs. En augmentant le SMIC au-delà de la plupart des autres pays, la France a fait le choix d'augmenter le revenu des salariés les moins payés par le salaire, plutôt que par l'impôt négatif, entraînant un chômage important chez les travailleurs ayant des qualifications qui les placent autour et en dessous du SMIC. Ces chômeurs perdent non seulement leur capital humain et une partie de leur tissu social, ils perdent aussi un peu de leur dignité. On peut les compenser par l'assurance chômage, mais jamais on pourra les compenser totalement. L'habitude qu'ont certains de nos compatriotes de railler les petits boulots à l'allemande ne semble pas tenir compte de cette dimension. Voici un autre débat sur la moralité et le marché, auquel nous ne pouvons pas échapper avec la numérisation de l'économie, qui va impacter de façon parfois très violente pratiquement tous les métiers et à laquelle, je pense, nous ne sommes absolument pas préparés. Je vais m'arrêter ici. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais je voulais vous remercier pour votre attention.
Écoutez, je vous remercie infiniment de cet exposé qui va certainement appeler des réflexions et des questions compte tenu de sa haute qualité et de sa profondeur. Puis-je demander tout d'abord à M. Aizenberg s'il souhaite ajouter quelque chose à ce stade.
Oui, merci M. le Président. Je voudrais simplement vous dire que nous avons, avec Bertrand Collomb, créé un rôle de, comment l'appeler, de discutant. Nous n'avons pas trouvé d'autre qualificatif de celui qui porte la contradiction aux conférenciers. Et je suis très heureux pour ma part que Michel Pébrot ait accepté de jouer ce rôle ce soir. Et je voudrais aussi vous dire que le texte que j'évoquais en commençant tout à l'heure, que nous attendons de ces 40 sages, nous avons essayé d'en créer une forme de préparation au travers d'un questionnaire portant sur 12 points. J'en cite quelques-uns, le travail des enfants, bien sûr, l'égalité homme-femme, les prévarications, la suppression des prévarications, l'écart des revenus, le rôle de la philanthropie dans l'économie moderne et bien d'autres. Et ce texte est un questionnaire, bien sûr, il n'a pas pour objet en quoi que ce soit d'amorcer, de précéder le texte final. Nous n'avons pas cette insolence vis-à-vis des futurs rédacteurs du texte, mais ce que je peux vous dire après avoir entendu Jean Tirole et cela vaut pour Michel Pébrot, c'est que, bien entendu, nous ferons notre miel de leurs propos pour améliorer notre questionnaire.
Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le discours de Jean Tirole était à ce point important et considérable qu'il mériterait d'être immédiatement débattu par la salle. Je voudrais simplement néanmoins introduire un certain nombre de réflexions sur le contexte dans lequel aujourd'hui nous abordons ce problème. En réalité, la réflexion sur économie de marché et éthique ou économie de marché et morale est la conséquence directe des crises que nous venons de rencontrer. Et ces crises ont mis en évidence un certain nombre de comportements. Et donc plutôt que de m'engager dans l'analyse de ce que vient de dire Jean Tirole, qui est d'une puissance tout à fait extraordinaire et qui, à mon avis, suffit à soi seul à répondre à l'essentiel des questions que l'on peut poser à ce sujet. Je voudrais évoquer ces crises sur le plan précisément de leur analyse en termes de sont-elles, posent-elles ou non des problèmes d'éthique. Alors nous avons vécu deux crises successives. La première, c'est la crise financière. Et la deuxième, c'est la crise des dettes souveraines de la zone euro. En ce qui concerne la crise financière, on peut partir de ses origines qui sont la distribution de crédits hypothécaires dits subprime aux États-Unis. Que sont les crédits hypothécaires dits subprime ? Ce sont des crédits qui, comme leur nom l'indique, ne répondent pas aux conditions normales d'un crédit. Les conditions normales d'un crédit, c'est un crédit prime. En pratique, cela veut dire que, alors que normalement, quand un emprunteur vient demander un crédit à une banque pour acheter un logement, on dit que ce crédit ne peut pas être supérieur à tel pourcentage de son patrimoine et que les annuités de remboursement ne doivent pas être supérieures à telle partie de son revenu mensuel. Le crédit subprime est le crédit qui fait disparaître ces deux conditions. Et donc, c'est un crédit qui, par construction, n'est pas cohérent avec le professionnalisme de la distribution de crédits dans une banque. De même, lorsque on fabrique à partir de ces crédits des titres que l'on va vendre à des investisseurs sur les marchés. Bon, ces titres doivent être fabriqués d'une telle de façon que on puisse évaluer leur probabilité de remboursement. En l'occurrence, tel n'était pas le cas. L'expérience a montré que la notation de ces titres était assez éloignée de la réalité de leur probabilité de remboursement. Donc, les gens qui ont fabriqué ces titres ont fait preuve de non-professionnalisme. Les gens qui les ont achetés, qui pour la plupart étaient des professionnels au moins aussi compétents que ceux qui les ont vendus, ont fait preuve d'une absence de professionnalisme. Et donc nous voyons que dans cette crise, l'absence de professionnalisme est le point de départ de la crise. Alors à cette absence de professionnalisme a succédé naturellement un problème de conformité. Un problème de conformité, c'est-à-dire d'application des lois. Est-ce que les agences de notation qui ont donné des notes élevées à ces titres étaient en conformité avec la loi ? Certainement pas. Est-ce que, ici ou là, tel ou tel régulateur qui devait s'assurer que les conditions dans lesquelles on distribuait des crédits ou dans lesquelles on fabriquait des titres étaient conformes à la régularité ? Certainement pas. Donc le deuxième problème qui s'est posé, après un problème de professionnalisme, c'est un problème de conformité. Enfin, et ce dernier point n'est pas négligeable, s'est posé incontestablement un problème d'honnêteté. C'est-à-dire que les individus qui vendaient des titres en pensant qu'ils ne valaient rien, et qui d'ailleurs l'ont écrit dans leur mail à des collègues, opéraient honnêtement ? Certainement pas. Est-ce que pendant cette crise financière, M. Madoff, qui a inventé un système extrêmement classique, à vrai dire, de pyramide Ponzi pour ruiner quelques investisseurs, est-ce que M. Madoff opérait de façon honnête ? Certainement pas. Est-ce que tel ou tel responsable d'établissement, qui, sachant ce que fabriquaient ses collaborateurs, les a laissés faire, opérait de façon honnête ? Certainement pas. Donc, la crise financière peut se résumer en une succession de non-professionnalisme, de non-conformité et de non-honnêteté. Où est l'éthique ? C'est la question. C'est probablement au niveau de la non-honnêteté, mais la non-conformité est-elle aussi non-éthique ? Et enfin, l'absence de professionnalisme est-il oui ou non éthique ? Je ne le sais pas. Mais je pose la question à Chantirol. Je vais prendre de la même façon, mais en allant un tout petit peu plus vite, la crise des dettes souveraines de la zone euro. Le point de départ de la crise des dettes souveraines de la zone euro, c'est naturellement le problème de la Grèce. Alors, en ce qui concerne ce problème de la Grèce, la première question que j'ai soulevée, celle du professionnalisme, est relativement simple. Est-il, oui ou non, professionnel pour un pays de s'endetter au-delà de 120% de son produit intérieur brut? Non, ce n'est pas professionnel. Alors, deuxième question, est-ce conforme? Alors, non, ce n'est pas conforme puisqu'il a signé des traités internationaux disant qu'il limitera son endettement à 60% du produit intérieur brut. Alors, néanmoins, c'est peut-être un peu conforme puisqu'on l'a laissé rentrer dans la zone euro alors qu'il avait déjà une dette supérieure à 100% de son produit intérieur brut. Et que d'autre part, la France et l'Allemagne, les deux grands pays défenseurs de la loi dans la zone euro, quand ils ont eu besoin de dépasser 60% du PIB en endettement, se sont mis d'accord pour faire une exception. Donc, côté conformité, je dirais, on est dans une situation délicate. Reste le côté honnêteté. Alors, du point de vue de l'honnêteté, est-il honnête d'avoir publié des comptes qui dissimulaient une partie de l'endettement grec ? Non, ce n'est pas vraiment honnête. Est-il conforme de les avoir laissés faire? Car en ce qui concerne la Commission, elle a un devoir de vérification de ce que publient les différents États membres. Et en ce qui concerne le Conseil des ministres européens, il a surveillé la Commission. Donc là, on est à mi-chemin entre la conformité et l'honnêteté. Disons, pour être gentil, qu'on est du côté de la conformité, que donc seul est du domaine de la non-honnêteté les opérations qui ont dissimulé le montant de la dette grecque et ceux qui les ont aidés, ont aidé les Grecs à les réaliser. Donc voilà une deuxième analyse d'un problème. Où est l'éthique ? Est-ce que l'éthique se situe au niveau du professionnalisme ? Est-ce qu'elle se situe au niveau de la conformité? Est-ce qu'elle se situe au niveau de l'honnêteté? Alors je dirais que du côté européen et du côté américain, on a une tendance assez différente, comme l'a expliqué Jean Tirole tout à l'heure, à analyser ce problème. Côté américain, la réponse à la crise a été assez clairement... premièrement, la question du professionnalisme est une question qui concerne les actionnaires des établissements concernés, et donc c'est à eux de tirer les conséquences de cela. Deuxièmement, en ce qui concerne la conformité, nous allons nous en occuper. Il y a eu un certain nombre de conséquences qui ont été tirées, tant en matière de conformité qu'en matière d'honnêteté. J'ai cité le nom de Madoff tout à l'heure, il a pris 150 ans de prison, je crois. Et donc, il y a eu des conséquences qui ont été tirées. Du côté européen, nous avons tendance à dire, tout cela relève quand même assez largement de l'éthique, parce que côté professionnalisme, ma foi, dans un certain nombre de pays, il n'y a pas eu de problème de professionnalisme. Bon, par exemple, en France, comme d'ailleurs au Canada ou en Australie, les banquiers n'ont pas fait des choses qui sont contraires au professionnalisme. Côté conformité, on a finalement assez bien respecté les normes françaises. D'ailleurs, les autorités françaises ont été assez positives vis-à-vis de la façon dont les choses s'étaient passées en France. Voilà. Côté honnêteté, il n'y a pas eu de difficultés spéciales. Donc, nous nous interrogeons sur l'éthique. Et alors, la différence entre la France et les États-Unis est que les États-Unis sont en train de fabriquer des codes de conduite qui ont pour finalité de faire en sorte que dans l'ensemble des établissements, on applique, si je puis dire, les réglementations. Les Européens qui travaillent presque tous aux États-Unis mettent donc en place des codes de conduite. Mais en Europe, nous nous interrogeons sur le contenu éventuel de codes d'éthique qui nous permettrait de traiter, du point de vue de l'éthique, tous ces problèmes. Et donc, actuellement, la plupart des établissements européens, français en tout cas, en Europe, ont fabriqué des codes d'éthique en plus des codes de conformité américains. Alors, est-ce raisonnable ou pas raisonnable, éthique ou pas éthique, je ne sais pas, mais c'est une question, me semble-t-il, qui pourrait s'ajouter à celle beaucoup plus intéressante qu'avait posée auparavant Jean Tirole. Merci, Monsieur le Président.
Je vous remercie beaucoup d'être passé de considérations très importantes, mais d'un haut niveau d'abstraction, en dépit de tous les exemples qui nous ont été donnés, à l'application concrète de ces concepts aujourd'hui. Monsieur Tirole, souhaitez-vous ajouter quelque chose après l'intervention de Monsieur Pébrouck?
Très bien, mais je suis tout à fait d'accord avec Michel Pébrot. Alors, c'est toujours difficile de distinguer entre le rôle du professionnalisme et le rôle de l'éthique, par exemple, de l'honnêteté. On a beaucoup débattu aux États-Unis de « est-ce que les gens savaient ?» Alors, évidemment, au bout d'un certain temps, à la fin du jeu, clairement, quand Dick Fuld, pour Lehman Brothers, continuait à spéculer sur les subprimes, clairement, il savait. Il faisait simplement de sortir la tête de l'eau en prenant encore plus de risques. Peut-être qu'au début, ils ne savaient pas. Peut-être qu'on n'était pas au courant de la bulle. Après tout, il y a des économistes très distingués qui pensaient qu'il n'y avait pas de bulle immobilière encore en 2005. Donc c'est compliqué. Il y a une question de savoir et puis une question d'honnêteté. Et puis il y a une question d'incitation. Je crois que c'est important de voir aussi qu'il y avait des incitations qui n'étaient pas toujours les bonnes. Des incitations de trop court terme. Des incitations qui étaient aussi fournies par le gouvernement. Quand vous avez un gouvernement qui ne régule pas assez et qui va mettre l'argent du contribuable in fine, vous avez beaucoup d'incitations à prendre des risques, bien sûr. Puisque pile, vous gagnez, et face, vous perdez. Face, c'est les autres qui perdent, c'est le contribuable qui perd. Donc si, avec probabilité 95%, vous gagnez, et puis avec probabilité 5%, vous créez un désastre pour le contribuable, ben, ça vaut la peine si vous n'êtes pas très éthique. Mon point de vue en tant qu'économiste, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur l'honnêteté. Bien sûr, il faut des classes d'éthique, il faut sensibiliser les gens, ça va de soi. Mais il y aura toujours des brebis galeuses. Faut pas. Et justement, là où il y a des failles dans le système, c'est là que ces brebis galeuses iront, souvent. Et donc, il faut faire très attention, il faut avoir un système qui soit résilient. Donc, c'est pour ça qu'il faut une régulation qui soit de bon niveau. Alors, heureusement, en Europe, on n'a pas eu de subprime, même si je vous rappelle qu'en France, les subprimes ont été proposés, c'est jamais passé dans la loi. Mais on a eu aussi des tas de bulles immobilières dans lesquelles se sont engouffrés, par exemple, les Caras et les gouvernements. Il ne faut pas oublier que les gouvernements, comme aux États-Unis, sous les deux administrations, démocrates et républicaines, se sont engouffrés et ont encouragé la bulle immobilière. Donc l'honnêteté, ce n'est pas seulement les participants. Bien sûr, il y a eu beaucoup de participants qui ont eu un comportement très peu éthique, y compris les agences de notation. Et je suis entièrement d'accord avec Michel Pébrot. Les agences de notation ont fait vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que, comme c'est des auxiliaires, ce sont des auxiliaires de régulation, puisque les agences de notation tirent beaucoup d'argent de leur fonction de régulateur implicite, puisqu'en donnant des notes, ils déterminent la quantité de fonds propres dont ont besoin les banques, elles devraient être régulées elles-mêmes. Donc il faut un système de régulation. Et pour moi, la crise de 2008, c'est en partie une crise de l'État, fondamentalement. Il n'est pas étonnant qu'avec les systèmes d'incitation qu'on a créés, des acteurs peu éthiques s'engouffraient dans les brèches. Je dirais la même chose sur l'Europe. C'est vrai que nous sommes tous responsables, les institutions n'étaient pas bonnes. Après, les gouvernements ont profité de ces institutions. Et pas seulement, d'ailleurs, en trichant sur les chiffres, comme la Grèce avec Goldman Sachs, bien sûr, mais simplement d'expliquer à leurs électeurs quels étaient les enjeux, qu'est-ce qui allait se passer. Ils n'ont jamais fait ça, les gouvernements successifs en Grèce, par exemple, et dans la plupart des pays. Donc, il y a quand même ce phénomène qu'il y a la malhonnêteté. Bien sûr, quand on commence à trafiquer les chiffres, tout le monde sera d'accord que c'est malhonnête. Mais quand on n'explique pas à ses électeurs ce qui va se passer, et ce qu'on est en train de faire, c'est une forme de malhonnêteté aussi, d'une certaine manière. Et donc, alors ce n'est pas de la malhonnêteté au sens classique, mais c'est quand même où s'arrête l'éthique. Et il faut bien rendre compte que c'est vrai pour tout le monde. Nous sommes tous plus ou moins éthiques. On essaie d'être éthique, mais à une certaine limite, nos considérations de carrière, nos considérations financières, nos considérations n'importe quoi vont peut-être l'emporter si les enjeux sont suffisamment grands. Donc il faut faire attention, il faut créer des incitations. Et ça, c'est vraiment le message principal. Il faut que les incitations soient les bonnes incitations.
Merci beaucoup. Bien, maintenant je vais donner la parole à la salle, que ceux d'entre vous qui le souhaitent puissent prendre la parole. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur quelque part ? Non, il n'y a pas. Non, mais il y a peut-être des micros sur les tables que vous pourrez utiliser. Donc ceux qui demandent la parole, je vous demande tout d'abord de vous identifier comme il est d'usage et ensuite de nous dire ce que vous avez à nous dire. Je crois que j'ai vu une main se lever là-bas. Allez-y.
C'était simplement pour tester le micro, mais j'en profite quand même pour poser une question. Puisqu'au niveau de l'éthique, donc, est-ce qu'il y a vraiment une éthique au niveau de la bourse avec les trading haute vitesse et ces robots informatiques qui passent des ordres selon des algorithmes très sophistiqués?
Alors, j'ai derrière moi quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi sur ce sujet, mais mon impression première, c'est pas une question d'éthique, c'est simplement une question de profit financier. Donc, les économistes n'ont pas de théorie pour justifier ce trading haute fréquence. Parce qu'être une milliseconde avant l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est très important d'un point de vue économique. Donc, c'est vrai que les sociétés, les institutions financières peuvent investir des centaines de millions de dollars en colocation avec, colocalisation, on dit, je pense, avec les bourses, et puis en fibre de verre pour que ça aille plus vite. Mais ça, c'est la recherche de la rente, je dirais. Je n'appellerai pas ça une question d'éthique, c'est la recherche de la rente. Mais ça peut être régulé aussi. C'est-à-dire que si on voulait réguler ce phénomène, on pourrait le faire. Il suffirait de dire que les ordres sont exécutés avec un retard. Par exemple, un processus poissonnien, par exemple. On va très bien avoir un processus de poisson qui exécute les ordres. Pourquoi pas ? On n'a pas besoin d'une milliseconde. Michel, peut-être.
Non, je partage ce sentiment. Je crois que ça n'est pas un problème d'éthique, c'est vraiment un problème de régulation. Et donc, c'est un type de comportement qui... On va voir se multiplier ce type de problème avec la digitalisation. Comme l'a dit Jean Tirole, on est actuellement dans une période dans laquelle il y a une transformation telle par les moyens, les nouvelles technologies de l'information de notre réalité quotidienne que dans tous les domaines, on va avoir une explosion de problèmes. C'en est un parmi d'autres. Il est traitable par régulation.
Merci. Autre question?
Oui, ici.
Oui, d'abord là-bas, ensuite ici. Je vous en prie.
Il faut vous approcher d'un micro.
Vous vous approchez d'un micro et vous dites votre nom.
J'ai un série. Dans nos temps, avec beaucoup de développement aussi rapide, est-ce que le gouvernement sait toujours repérer les bonnes incitations? Est-ce qu'ils peuvent toujours reconnaître? Par exemple, un exemple est le Bitcoin. Oui. Le Bitcoin, la technologie Bitcoin. Bitcoin.
Oui.
D'après ma compréhension, c'est une devise qui voudrait rendre public toutes les transactions et... Qui veulent se sortir de tout contrôle gouvernemental.
Bon, est-ce que l'État peut toujours détecter les bonnes régulations? Je pense que c'est aussi le rôle des économistes. Hein, et parfois, on ne sait pas faire. La discipline progresse, on essaie de faire des progrès sur nos régulations, les régulations qu'on propose. Il faut aussi des régulations qui puissent être implémentées, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'informations que le gouvernement n'a pas, ou que le régulateur n'a pas, je devrais dire. Donc c'est notre travail, qui est imparfait, mais on progresse, j'espère. Dans le cas de Bitcoin, moi, mon point de vue personnel, c'est... ça peut marcher ou pas marcher, on ne sait rien. C'est une bulle, fondamentalement, c'est une bulle. C'est une bulle dans la mesure où il n'y a pas de fondamental derrière. Si tout le monde, dans cette salle et dans le monde entier, décide que Bitcoin a valeur zéro, ça aura valeur zéro. Ça peut être une bulle comme une autre. Même ce qui est vrai aussi pour pour l'euro ou le dollar d'ailleurs. À part que derrière, il y a quand même des États, mais en gros, et des banques centrales, mais en gros, ça n'a pas de valeur fondamentale. Donc, il est possible que la bulle éclate. Alors, ce qui va être très important dans l'avenir du Bitcoin, c'est deux choses. La première, c'est est-ce que ça pourra survivre à un monde où on aura, qui sera un peu régulé. Parce que c'est clair que maintenant, Bitcoin existe en partie pour des transactions qui ne sont pas des transactions très éthiques, pour cacher de l'argent. D'accord ? Alors, ce n'est pas ce que veulent ces promoteurs. C'est plutôt des libertaires, libertariens, je ne sais pas comment on dit.
Libertaires,
c'est différent. Mais disons que c'est vrai que c'est utilisé beaucoup pour des choses très peu éthiques. Mais ça pourrait, c'est une technologie merveilleuse, donc ça pourrait survivre à ça. Et puis l'autre question, c'est est-ce que ça va devenir un moyen de paiement ? Donc il faut qu'ils trouvent un système, un modèle économique qui les rende moyen de paiement. C'est-à-dire que quand vous allez chez le commerçant, vous puissiez payer avec Bitcoin et que vous ayez une incitation à payer avec Bitcoin et que le marchand, le commerçant, l'accepte. Donc là, on est dans la théorie des marchés biface. Alors on pourrait commencer tout. Mais donc là, il va y avoir des questions aussi d'économie industrielle derrière. Mais il y a aussi une question un peu de bulle. Et moi, je ne serais pas très rassuré si j'étais régulateur bancaire, si les banques de mon pays investissaient énormément dans Bitcoin. C'est extrêmement risqué.
Merci beaucoup. Madame.
Oui, Guylaine Anajouanine.
Si vous permettez, je vais ajouter un mot sur le Bitcoin qui est la monnaie, c'est un élément très fondamental dans l'économie, le plus fondamental de l'économie. Ça repose sur la confiance que vous avez comme citoyen dans le pays dans lequel vous vivez, en ce qui nous concerne, dans l'Europe, puisque c'est une monnaie européenne. L'idée d'utiliser une monnaie alternative à cette monnaie est une idée qui, en soi, est totalement spéculative. Donc il est toujours possible de faire de la spéculation, mais avec les risques de la spéculation. Il n'est pas possible d'imaginer aujourd'hui une monnaie privée qui donne les mêmes sécurités qu'une monnaie publique. Les monnaies publiques, ce sont le dollar, l'euro, le yen, demain la monnaie chinoise, qui aujourd'hui n'est pas totalement convertible, comme vous le savez. Il faut considérer qu'en matière économique, la monnaie, on a besoin de confiance. Donc c'est ce qu'a dit Jean Tirole. La confiance, effectivement, si nous décidons que nous faisons tous confiance au Bitcoin, ça peut être une monnaie, mais qui est prêt à cela ?
Bonne question.
Oui, Guylaine Lajoinine, on connaît les dangers, Michel Pébreau l'a rappelé, Raymond Barre, notre confrère, nous l'a enseigné. 20% d'apport, ne pas dépasser 30% de ses ressources mensuelles en remboursement crédit. Ce sont des règles d'or. On connaît ces dangers. Pourquoi elles ne sont pas appliquées ? Qui va passer les sanctions ?
Enfin, mon opinion personnelle, encore une fois, Michel Pébreau connaît le sujet beaucoup mieux que moi, mais mon opinion personnelle, c'est que ce ne sont pas les banquiers ni les régulateurs qui ont proposé ça, ce sont les politiques, les hommes politiques dans tous les pays qui veulent faciliter l'accès à l'immobilier, parce que c'est très populaire, et qui sont prêts à jouer avec les banques, et donc avec les contribuables, et aussi avec les personnes concernées, parce qu'il y a un certain nombre de personnes concernées qui ont quand même souffert énormément et qui ont été éjectés de leur maison avec leur famille, de ces comportements. Donc, pour moi, dans la plupart des pays, c'est dû aux politiques.
Merci beaucoup. Monsieur. Essayez de trouver un micro.
S'il te plaît. Jean-Claude Azra, je voudrais savoir ce que l'économiste peut dire sur l'efficacité des sanctions. Notamment, ce qui me frappe beaucoup depuis la crise récente, c'est que les sanctions financières ont été très considérables, sont chiffrées en milliards de dollars, les sanctions personnelles, beaucoup moins.
Alors ça, c'est un vieux débat et sur lequel les économistes n'ont pas une opinion définitive, mais c'est vrai qu'il y a une différence. Par exemple, en droit de la concurrence, typiquement aux États-Unis, il y a des sanctions criminelles. C'est-à-dire que si vous rencontrez votre concurrent sur un parking de supermarché, vous allez en taule, si je puis m'exprimer ainsi. En Europe, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est vrai que les sanctions financières touchent les entreprises, mais pas forcément les dirigeants qui adoptent ces comportements. Donc il y a un peu ce débat. Est-ce qu'on devrait faire payer les entreprises ou est-ce qu'on devrait faire payer les dirigeants? Il y a aussi le danger, effectivement, que les dirigeants, après, ne veuillent plus être dirigeants. C'est-à-dire que s'il y a trop de dangers, on le voit par exemple avec des maires aujourd'hui, si vous êtes maire d'une commune et que vous exposez à quelque chose dont vous n'avez même pas connaissance et que vous êtes condamné à la prison, effectivement, vous n'aurez plus beaucoup de maires de communes. Donc il y a un jeu délicat à jouer. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, je pense qu'il faut condamner le dirigeant à des peines de prison. Et ça, je pense que c'est important. Mais effectivement, il faut arriver à trouver l'équilibre juste qui ne décourage pas non plus les gens à devenir dirigeants, comme on ne veut pas les décourager à devenir maire d'une commune.
Bien sûr.
Donc il y a un jeu assez délicat à jouer là.
Je vous remercie. Autre question, au fond, à droite.
Petite question, l'administration américaine s'est fait une spécialité de rançonner des acteurs économiques pour des déficits de réglementation. Monsieur Pébreau en sait quelque chose, hélas. Je voudrais savoir quand est-ce que l'administration européenne va faire de même et attaquer Goldman Sachs pour avoir truqué les comptes de la Grèce.
Michel. Non.
Je crains que vous n'ayez pas de réponse immédiate à cette question.
C'est une bonne question.
D'autres questions ? Oui.
Excusez-moi. Pierre-Christophe Doulidis, je suis le président de l'Association internationale des intermédiaires financiers qui a l'honneur de vous accueillir cet après-midi dans cette magnifique salle de l'Académie. Moi et mes collègues, on suit de très près, pour des raisons évidentes, l'évolution économique et nous sommes très inquiets par un certain nombre de chiffres. 700 000 milliards de produits structurés qui circulent. 400 000 milliards de dettes des États. 70 000 milliards de produits intérieurs bruts de tous les pays sur plan économique mondial. Alors là-dessus, on lit un certain nombre de rapports qui font partie de notre métier et on se rend compte qu'un très grand nombre d'indices deviennent extrêmement inquiétants, notamment en ce qui concerne les marchés financiers. Je vais vous en donner lecture de quelques-uns parce que je ne veux pas passer tout le rapport de la Banque mondiale que j'ai sous les yeux en revue. Le ratio global des stocks totaux des entreprises montre une surabondance inquiétante. Les bénéfices extra-comptables des entreprises du Standard & Poor's pour le troisième trimestre sont en baisse une fois de plus de 1%, alors qu'ils étaient déjà en chute de 14% depuis le début de l'année. L'indice manufacturier PMI de Chicago s'élève à 48,7% pour le mois de novembre, indiquant une contraction. L'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le mois de novembre est ressorti à moins 4,9%, suivant un chiffre du mois précédent de moins 11%. Non.
Puis-je vous demander quelle est la question que vous souhaitez poser à M. Tirole ?
Alors, la question que je souhaite poser, c'est... mais il faut que je décrive la problématique. On a des marges de levier sur les marchés financiers d'environ 600%, alors que les statistiques montrent que le petit investisseur n'est pas dans le marché. On a également un autre problème qui est en train de se pointer sur le plan économique, c'est le retrait de la classe d'âge des baby boomers et qui va coûter, avec le retrait, environ 46 000 milliards de dollars à l'économie américaine. Alors que les marchés boursiers continuent à monter. Alors, à quel moment peut-on considérer que la connaissance de tels faits et de tels excès qui sont détectables et visibles sont contraires à certains principes de l'éthique, puisque forcément, ils impliquent un dommage qui est global et contraire à l'intérêt commun?
Je vous remercie beaucoup, M. Tirole.
Alors moi, je pense que ce sont des questions de régulation de nouveau. Je vais faire un peu la même réponse. Ce ne sont pas des questions d'éthique, ce sont des questions de régulation. C'est-à-dire que les gens qui jouent avec des produits dérivés, s'ils jouent avec leur propre argent, ça ne me regarde pas. S'ils jouent avec l'argent des autres, c'est différent. Donc, les produits dérivés, qui peuvent être une catastrophe absolue, comme on l'a vu récemment, sont après tout, au départ, des produits d'assurance. Vous vous assurez contre une variation de taux de change, une variation de taux d'intérêt, contre le défaut d'une entreprise, la défaillance d'une entreprise. Après tout, vous vous assurez contre l'incendie de votre maison. Il n'y a rien d'immoral à ça. Donc ce n'est pas du tout une question de moralité. La question, c'est quand vous abusez de ces produits pour après faire perdre de l'argent à d'autres personnes, en particulier le contribuable. Et donc, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas à interdire les produits dérivés. Il faut les contrôler. Et un des problèmes qu'il y a eu en 2007-2008, c'est que les produits dérivés étaient utilisés et n'étaient pas contrôlés. Quand on regarde par exemple ce qu'a fait AIG, en prenant des positions systématiques dans un sens, il y avait beaucoup de contreparties qui étaient des banques régulées ou des compagnies d'assurance régulées, qui donc, si AIG faisait faillite, AIG qui était un holding non régulé, je ne parle pas de la compagnie d'assurance, je parle du holding non régulé, en fait, si AIG avait fait faillite, il y a beaucoup d'autres acteurs du système économique qui auraient dû être enfloués peut-être, on ne sait pas, mais... C'est AIG, heureusement, est arrivé juste après Lehman et a été sauvé, heureusement pour les Européens. Donc ça, c'est vraiment important. Ces marchés, de gré à gré, les marchés OTC sont des marchés très opaques. Alors il y a des raisons économiques pour ça, mais il y a aussi des raisons stratégiques. Quand vous avez des produits que seules 3 ou 4 personnes dans le monde comprennent, comment voulez-vous que les régulateurs bancaires puissent comprendre ces produits? Et donc... C'est pour ça que je pense qu'il y a un progrès qui a été fait, en tout cas moi c'était ma recommandation en 2008, d'aller vers des marchés centralisés qui posent d'autres problèmes par ailleurs, qui sont des problèmes de solvabilité de la plateforme, mais des marchés centralisés qui sont transparents, où il y a des appels de marge, où il y a des choses comme ça, et où il y a des prix. Alors ça veut dire effectivement qu'on va limiter les marchés. Les économistes parlent toujours de marché complet, c'est-à-dire qu'on veut avoir de l'assurance contre tous les chocs possibles et imaginables. Mais c'est trop, à mon avis. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça devient du second ordre à un certain moment. Et ce qu'il y a du premier ordre, il faut pouvoir s'assurer contre des variations de taux de change, il faut pouvoir s'assurer contre des variations de taux d'intérêt, par exemple, ou même des défauts d'entreprise. Mais si ça passe sur des plateformes centralisées, avec des prix de transaction et des appels de marge, ça protège beaucoup plus, finalement, les déposants, le contribuable et la société dans son ensemble. Et donc, quelque chose de très important dans l'économie de la régulation, c'est l'information. C'est au centre, c'est vraiment au centre de la théorie de la régulation, telle qu'on l'a développée, c'est l'information. Vous pouvez réguler que sur des choses que vous connaissez, à partir de l'information que vous avez. Si vous ne l'avez pas, il faut tenir compte de ça, et donc vous voulez aller vers plus d'informations.
Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée dans le fond à gauche.
Jean-Pierre Nessy, on vous a parlé précédemment de régulation, vous venez d'en reparler encore maintenant. Certains travaux ont été faits depuis 2008, depuis la crise des subprimes, particulièrement aux États-Unis. D'après ce qu'on entend encore maintenant, il semblerait que ces travaux soient pas réellement suffisants pour nous rassurer justement sur la faisabilité ou sur la régulation des marchés et les risques qu'on prend encore. Je reviens aussi aux centaines de milliards qui ont été cités tout à l'heure, avec un effet de levier de 600%. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des informations? Est-ce qu'il y a des progrès véritablement en devenir aux États-Unis, au Royaume-Uni, sont des pays qui ont travaillé, mais également en Europe et sur les autres marchés?
Alors, deux choses. D'abord, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas avoir un zéro, sinon on ne ferait plus d'activité bancaire. On ferait simplement... Tout le monde détiendrait des bons du trésor allemand ou des choses comme ça. Donc, même ça, ça peut devenir risqué dans le contexte actuel. Donc, on ferait plus grand-chose. Donc, l'idée, c'est quand même de diminuer au maximum cette probabilité de faillite financière, parce qu'on voit ce que ça coûte aux populations. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours les données économétriques pour pouvoir tester nos modèles. Et donc, savoir exactement combien de fonds propres il faut, par rapport à tel instrument, par rapport à telle corrélation entre actifs, c'est pas facile. Donc les économistes peuvent très bien se tromper sur ce sujet. Il faut bien dire, sur les principes, je crois qu'on comprend à peu près, sur les données, nous sommes très faibles, parce que le monde change très vite. D'accord ? Donc ça, c'est très complexe. Après, maintenant, est-ce qu'on va échapper à une nouvelle crise économique ? Encore une fois, il y a des gens plus compétents que moi sur le sujet. Si vous regardez le film The Big Short, vous penserez que non, on va retomber dans une crise économique. Maintenant, il faut continuer à améliorer nos régulations. Je parlais du marché OTC, on peut faire encore un peu plus. Il faut continuer à réguler les agences de notation, si on veut utiliser des agences de notation, etc., etc. Quelque chose qui m'inquiète, par exemple, c'est j'ai peut-être tort, mais le shadow banking, les banques de l'ombre, ces établissements qui ne sont pas régulés ou peu régulés, sauf s'ils sont considérés comme SIFI, c'est-à-dire comme systématique, important d'un point de vue systémique, qui peuvent très bien être sauvés. Après tout, les banques d'investissement américaines en 2008 ont été sauvées avec l'argent du contribuable, l'argent potentiel du contribuable. Parce que il y en a qui se sont redressés par la suite, mais c'était quand même un risque qu'a pris le contribuable en sauvant certaines de ces banques d'investissement qui n'étaient pas régulées. Donc aujourd'hui, il y a cette question un peu délicate qui est que on veut réguler plus les banques et les compagnies d'assurance et les fonds de pension, c'est bien, à part que l'activité peut se déplacer vers le shadow banking, qu'on ne régule pas, ou très peu, parce que ça part toujours ailleurs, là où c'est pas régulé, ça c'est une loi de la nature, ça part toujours là où c'est pas régulé, et on risque de sauver ce shadow banking pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le cas d'AIG, l'interconnexion, finalement, les expositions qu'ont les banques, compagnies d'assurance, fonds de pension à ces intermédiaires financiers. Deuxième possibilité, les petits déposants, les personnes vont, pour avoir un rendement supérieur, vers ce shadow banking. Troisième possibilité, alors je ne dis pas que ça se passe actuellement, troisième possibilité, les PME, quand ce shadow banking fait des prêts aux PME. Vous regardez la Chine, ce qui se passe actuellement en Chine, il y a du shadow banking en Chine. Le système bancaire est très régulé, d'ailleurs mal régulé. Les déposants plutôt riches vont dans le shadow banking, espérant évidemment être sauvés en cas de problème. Les PME vont vers le shadow banking parce que les banques chinoises prêtent essentiellement aux grandes entreprises, plus solvables. Il y a des tas de régulations prudentielles chinoises qui encouragent à aller vers les grandes entreprises. Et donc, le risque pour nos sociétés, c'est que finalement, en régulant plus, vous pouvez créer une autre crise financière. Et donc, c'est un jeu très, très délicat. On voudrait réguler, demander plus aux banques, aux compagnies d'assurance et aux fonds de pension, mais en même temps, on risque de créer une autre crise ailleurs, parce qu'il y a une migration de l'activité économique vers ces autres institutions.
Bien. Je vous remercie beaucoup. Nous approchons... Alors, dernière question. Dernière.
Bonsoir, Faymou. Vous parliez tout à l'heure de la numérisation des métiers. Donc je ne peux m'empêcher de penser à Uber, par exemple, donc l'ubérisation des métiers. Je voulais avoir votre avis donc sur les limites sociales et donc éthiques de cette numérisation, ainsi que la part de responsabilité de l'État quant à la régulation de la numérisation. Merci.
Merci pour votre question. Enfin, il y a plusieurs questions dans votre question. Commençons par Uber. Ce qu'on fait en France vis-à-vis d'Uber, c'est exactement la mauvaise démarche. C'est-à-dire, Uber, c'est une série d'innovations qui sont très faibles. Vous réfléchissez, c'est des innovations mineures. Faire de la géolocalisation, utiliser les cartes de crédit préenregistrées, tous ces services, finalement, sont des innovations extrêmement mineures qui n'ont pas été faites par les taxis dans le monde entier. Ça dit quelque chose au sujet des monopoles. Toutes ces petites innovations mineures n'ont jamais été faites par aucune compagnie de taxi dans le monde entier, ce qui est incroyable. Donc, ça dit quelque chose sur les monopoles. Maintenant, avec Uber, il peut y avoir un problème de charge sociale, il peut y avoir un problème de fiscalité, même si en France, ce problème de fiscalité est un peu... comparé a été un peu exagéré. Mais enfin, il y a un problème de fiscalité et un problème de charge sociale. Ben, on devrait traiter la fiscalité, on devrait traiter ces charges sociales plutôt que de supprimer ce qui casse le monopole et représente une certaine innovation. Donc ça, je pense que c'est tout à fait important. Donc je pense que l'approche n'est pas la bonne. On devrait s'adresser au problème plutôt que... Encore une fois, on est en train de casser le miroir. Alors après, sur le numérique, c'est quand même un problème considérable. Est-ce que, puisque tous nos métiers vont être changés, vous savez qu'en Europe et aux États-Unis, il y a une polarisation. C'est-à-dire que ceux qui ont des métiers qui sont complémentaires à la globalisation et aux ordinateurs, finalement, la numérisation gagne très très bien leur vie. Après, il y a de plus en plus d'emplois assez mal payés dans les services, et entre les deux, c'est en train de disparaître. D'accord ? Demain, ça va être bien pire. Demain, le chauffeur de taxi, dans 10 ans, il n'existera plus de toute façon. Il y aura des voitures qui se conduiront toutes seules, donc il n'y aura même plus de chauffeur de taxi. Le médecin, est-ce que le médecin, on aura encore besoin d'un médecin ? Le médecin, ça va être un test génétique avec un test sanguin, etc., un ordinateur qui va sortir. Alors, il y aura toujours besoin d'un médecin pour des relations humaines, mais ça va être un métier complètement différent, peut-être. J'en sais rien, puis il y a d'autres d'entre vous qui savent beaucoup mieux que moi là-dessus. Professeur d'économie à l'université, on n'aura plus besoin. À Toulouse, ça sera un cours du MIT qui sera fait, et moi, je serai juste là, répétiteur, peut-être, à encourager les étudiants, je sais pas. Tous ces métiers vont être complètement changés, certains vont complètement disparaître. Il y en a déjà un certain nombre qui ont disparu. Alors, c'est bien, d'une certaine manière, ça enrichit la société. Ça existe depuis 200 ans. À chaque fois, ça commençait avec les ludites en Angleterre, à chaque fois, il y a une révolution. Seulement, évidemment, à chaque fois, il y a des destructions d'emplois. Ces destructions d'emplois sont compensées par la création de nouveaux emplois. Donc, il faut accompagner les gens. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que tous les gens qui ont prédit que... Il y a beaucoup de gens très distingués qui ont prédit que finalement l'emploi allait disparaître ces 200 dernières années, hein, c'est pas récent. Ils se sont tous trompés, évidemment, parce qu'il y a des emplois qui sont créés ailleurs, toujours. Le problème, c'est est-ce que les emplois qui vont être créés vont être payés suffisamment? Et là, j'en reviens à la notion de dignité. C'est-à-dire la notion de dignité, c'est demain, peut-être... Il y aura une rente numérique, il y aura les Google, les Amazon, etc. de demain. Leurs employés, les quelques employés de ces boîtes très créatrices, vont gagner énormément d'argent. Alors on peut utiliser la fiscalité pour redistribuer. Et puis on peut faire comme en Arabie Saoudite, finalement payer les autres gens à partir de cette manne. C'est la manne numérique au lieu de la manne pétrolière. Donc notre monde sera plus riche, on peut redistribuer vers les plus pauvres. Soit. Deux problèmes. Le problème, c'est le problème de la dignité. C'est vrai que les gens qui auront ces petits boulots très mal payés ou qui seront subventionnés par l'État vont peut-être avoir des problèmes de dignité. Et l'autre problème, c'est qu'une manne pétrolière, elle reste dans votre sol. Une manne numérique, elle se déplace. Et d'ailleurs, la France est très très mal placée, bien qu'on ait beaucoup d'entrepreneurs très doués. La France est un pays d'entrepreneurs, comme tous les pays. Mais nous, on n'a pas de Google, on n'a pas d'Amazon, on n'a pas d'Uber, on n'a pas d'Uber, on n'a pas les biotech, etc. Dans l'ensemble, il y a des exceptions, bien sûr. Et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que contrairement, on ne sera pas l'Arabie Saoudite. Parce que la rente numérique, elle ne sera peut-être pas en France. Et maintenant, dans un monde globalisé, où les gens peuvent bouger, ils iront souvent au moins 10 ans fiscalement. Et donc, il va falloir se préparer à ce nouveau monde qui, franchement, on n'est pas du tout préparé en France. L'ajustement du marché du travail, par exemple, et nos institutions du marché du travail, notre fiscalité, toutes ces choses-là ne sont pas du tout prêtes à subir cet énorme choc numérique qu'on va subir dans les 10 prochaines années.